Face à la crise du Covid-19, les makers ont su se mobiliser rapidement et faire preuve d'une capacité productive nationale. La libre circulation des savoirs et la coopération prônée par les makers pourraient-elles aider à transformer les organisations ? Que pourrait apporter la pensée makers à l'entreprise ? Bienvenue dans ce deuxième épisode des Causeries de la Plaine. Je suis Blandine Lebourg, responsable éditoriale événementielle de la Plaine Image. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Chris Delepierre, qui est changemaker chez Trésorium. Bonjour Chris et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui ici sur place à la Plaine Image. Ça va bien ?
Bah ouais, super. Heureux et déconfiné. Et puis merci en tout cas pour ton accueil et pour cette causerie sur les makers.
Ouais. Oui, nous connaissons depuis quelques temps, hein, puisque la Plaine Image est l'un de tes terrains de jeu. On te voit un petit peu au quotidien, mais du coup, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur toi et sur Trésorium, du coup ?
Ben, ça fait déjà 3 ans qu'on a créé Trésorium, qui est implanté à la Plaine Image. On est une équipe de 5 personnes qui développons une éducation créative et numérique pour à destination notamment des enfants et des grands-enfants. Et donc ça se passe par de l'animation d'ateliers, autour justement des Fab Labs et des makers, on va en parler. Mais en tout cas, comment dès le plus jeune âge, on peut accompagner les acteurs, notamment de l'éducation, à ces nouvelles pédagogies et à l'usage de ces nouvelles technologies de fabrication numérique pour donner vie à ces idées. Donc voilà, sur quoi on travaille vraiment, c'est la créativité, l'innovation pédagogique et comment accompagner cette transition éducative dont on a besoin dans notre société actuelle.
Tout à fait. Alors, c'est encore un autre sujet, tu pourras sûrement revenir pour un prochain épisode. Mais là, est-ce que tu peux aussi revenir sur les makers, en fait, finalement ? Qui sont-ils ? Qui est un makers et quel est ce mouvement ?
Ben, maker, on pourrait le traduire en ch'ti par un faiseux, hein, tout simplement, mais c'est un bricoleur avec la nouveauté du numérique, donc un bricoleur 2.0 qui va à la fois utiliser des outils un peu traditionnels de bricolage, mais aussi des nouvelles technologies de fabrication numérique. Donc on connaît les imprimantes 3D, mais il y a aussi des découpeuses laser, de l'électronique, des cartes programmables, des robots, etc. Donc voilà, de pouvoir donner vie à ces idées, et surtout, c'est un mouvement, les makers sont pas seuls dans leur coin, ils font communauté, on parle de communauté des makers, et le but c'est de faire ensemble des projets, notamment en partageant les plans, en se rassemblant dans ces tiers-lieux de fabrication numérique qu'on appelle des Fab Labs, et voilà, en contribuant au bien commun, en produisant justement de l'innovation et des objets notamment qui peuvent être utiles dans la société.
Et on a vraiment beaucoup parlé d'eux finalement. Il y a une véritable mise en lumière lors de la crise sanitaire que nous avons connue. Donc, quel rôle ont-ils joué finalement ? Qu'est-ce que ça a pu nous montrer ? Oui, qu'est-ce qu'ils ont fait justement ? Pourquoi on a autant parlé d'eux ?
On a beaucoup parlé d'eux parce que, comme on l'a tous vu, entendu dans les médias, il y avait un manque de masques, notamment d'équipements de protection, et très rapidement, donc c'est ce qui caractérise aussi, on va dire, cette production délocalisée là des makers, c'était de pouvoir être très réactif pour produire à échelle très locale, micro-locale, des masques, des blouses, des visières de protection, des ouvre-portes, ou même des ventilateurs. Il y a des projets de création de ventilateurs en licence libre, en open source, pour justement répondre de façon très réactive et de façon très pragmatique finalement à ce manque d'équipement qui était soulevé par les médecins, par les soignants. Et donc il y avait une forme de système D pour pouvoir au plus vite en tout cas répondre à ce besoin. Et puis faire preuve de solidarité, parce que souvent, voilà, c'était des dons que faisaient les makers auprès de leurs commerçants, auprès des hôpitaux du coin. Et donc, ce qui a caractérisé cette mobilisation, bah, c'est notamment à la fois cette réactivité, ce côté très local, et puis cette résilience, hein, le fait que face à la crise, on a pu répondre, en tout cas en tant que makers, à ce besoin vital presque de fabrication d'équipements.
Oui, finalement, il y a même des plateformes, je pense, qui ont été créées pour permettre à ces makers d'entrer en relation directe avec les personnes, que ce soit les hôpitaux, les structures, les commerces qui avaient besoin de matériel. Et c'est vrai que c'était assez enthousiasmant de pouvoir voir cette solidarité. Et il y a quelque chose qui pourrait expliquer l'adaptabilité finalement dont on fait peur les makers, parce qu'ils sont très très mis très rapidement en ordre de marche. Ils ont su se fédérer aussi alors qu'ils étaient quand même, je pense, assez nombreux. Qu'est-ce qui dans leur mode d'organisation pourrait expliquer tout ça?
C'est un mode d'organisation décentralisé, donc c'est vrai que ça pourrait inspirer les grandes organisations, les grandes institutions, mais en tout cas ils font réseau à échelle locale, réseau à l'échelle nationale avec par exemple le réseau français des Fab Labs qui répertorie, qui fédère tous ces lieux où on peut fabriquer justement ces outils. On peut trouver justement des imprimantes 3D mutualisées par exemple, mais il y en avait aussi beaucoup qui en avaient aussi chez eux, entre guillemets. Et donc c'est vrai que très rapidement sont mis en place des plateformes de mise en relation entre ces makers, ceux qui pouvaient produire, et ceux dont qui en avaient besoin, comme par exemple les hôpitaux. Et donc ce qui a caractérisé aussi cette production rapide, c'est à la fois le fait de pouvoir produire à la demande finalement, donc on n'a pas de stock, on produit en juste à temps finalement, on lance des impressions par exemple de visières, mais également le fait qu'on pouvait trouver des plans, en tout cas un maker à un endroit de France a conçu une visière, l'a partagée au réseau, et donc a pu, on va dire, ce qu'on appelle penser global, agir local, c'est-à-dire de pouvoir partager globalement sur Internet ses plans et produire localement des objets. Et donc voilà, ça c'est en tout cas ce qui a caractérisé, c'est aussi cette open innovation, le fait aussi de pouvoir d'avoir des itérations très rapides, tout simplement d'innover. Pendant la crise, je regardais sur Facebook, il y avait la 21e version de la visière qui était sortie avec une amélioration de la consommation de matière, du temps d'impression. Et donc, voilà, tout ça a été partagé, réaugmenté par chacun et par la communauté.
Oui, donc finalement, on a quand même un mode d'organisation qui est plutôt horizontal. Et c'est vrai qu'ils ont peut-être... Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont pu se mettre en ordre de marche assez rapidement par rapport à un mode d'organisation de l'État ou de l'industrie qui est plutôt assez vertical? Comme donner cette affirmation aujourd'hui.
Oui, c'est une forme d'horizontalité, d'autogouvernance, d'ingéniosité collective. Et c'est vrai qu'on l'a vu par rapport à la société complexe et à la crise complexe qu'on a vécue. Il faut inventer des formes d'intelligence distribuée, d'organisation distribuée, qui permettent d'être beaucoup plus résilients en cas de crise. Et là, on a pu le mettre en lumière et le voir sur le terrain.
Oui, du coup, on pourrait en tirer des leçons finalement aujourd'hui pour le monde de l'entreprise. Et on peut se dire que la pensée makers pourrait apporter quelque chose dans l'entreprise. Tu l'as déjà dit, tu as parlé d'open innovation notamment ou de choses comme ça. Comment on peut faire pour s'en inspirer quand on est une entreprise aujourd'hui, peu importe finalement si on est une petite structure ou même un grand groupe?
Principe d'agilité, on se focalise sur la valeur créée, donc on produit une visière même si c'est pas parfait et on la teste et on expérimente, et ce qui permet d'avancer et puis de finalement produire à plus large échelle des produits pertinents. Deuxième principe, la douocratie, c'est-à-dire celui qui est légitime, c'est celui qui fait, c'est pas une question de statut, de chef ou pas, c'est voilà, je me mets dans cette pratique du faire et juste on le fait, on se pose pas trop de questions et c'est ça qui donne la légitimité. Il n'y a pas de principe de hiérarchie, de statut qui peut freiner l'innovation. Et puis, cette forme d'autogouvernance finalement où on a pu prendre des décisions de façon, je dirais, autonome, en tout cas pour le bien commun. En tout cas, il y avait cette idée de réfléchir avec une perspective plus large, de dire c'est de la solidarité, on contribue à ce bien commun et donc j'attends pas de l'État ou j'attends pas, je suis pas dans une attitude passive, mais je suis bien actif. Donc maker, vraiment cet état d'esprit du faire, d'expérimenter, de tester et de pouvoir aussi contribuer à une communauté. Donc cet état d'esprit d'ingéniosité collective aussi, ça. On parle beaucoup d'intelligence collective en entreprise. Mais c'est vrai que regarder comment fonctionne une communauté de makers, des Fab Labs, etc., permet aussi de mieux comprendre comment ça pourrait se dupliquer dans les organisations.
Et concrètement, si je suis un entrepreneur et je me dis oui, il faudrait que effectivement je pousse mes équipes à être un peu plus agiles, à partager, à faire ensemble davantage, comment je m'y prendrais aujourd'hui pour m'inspirer de tout ça?
Mon conseil, ça serait de passer la porte de l'atelier, tout simplement, aller rencontrer des makers, aller à une maker faire, faire des voyages apprenants. Là, on est basé à Lille, hein, mais on a la chance d'avoir des équipements très impressionnants avec le tech shop, avec des multiples Fab Labs en école, etc. Donc, c'est déjà passer la porte de l'atelier. Et puis, on peut prendre des principes de management sans forcément être dans l'industrie ou sans forcément être dans une activité de production. Même si on est dans le service, on peut prendre des principes de management de ces nouvelles formes d'organisation. Donc, rien que, par exemple, l'économie contributive en open source, donc le fait de partager ses plans, déjà en termes de paradigme, de vision du monde et de penser son nouveau business model, oui. C'est déjà en soi une révolution.
Et c'est un bon moment de le faire, certainement.
Il faut prendre la crise comme cette opportunité de réinventer nos modèles pour le monde d'après, comme on dit. Alors, c'est vrai que là, les makers sont en tout cas une partie, pour moi, de ce monde d'après. Et puis, contribuent à faire ce monde d'après.
À le construire. Et on peut aussi éventuellement passer la porte de Trésorium. Je pense que vous avez aussi cette corde à votre arc.
Oui, c'est vrai que nous, en expérimentant avec les enfants, on touche aussi les grands-enfants. Et même, on a une activité aussi en entreprise pour faire découvrir tout simplement cet état d'esprit du faire, cette joie de créer aussi en termes de confiance en soi, parce que quand on conçoit et on fabrique ses propres objets ou ses propres programmes, on est tout simplement fier et heureux. Et donc c'est vrai qu'en termes d'émancipation, d'incapacitation même des collaborateurs, les makers peuvent aussi être très inspirants. Et donc c'est vrai qu'organiser des séminaires même très courts permet déjà de se plonger dans cet univers. Et puis si on veut aller plus loin, là, de pouvoir justement monter un Fab Lab d'entreprise, par exemple. Pendant la crise, on a eu Fab & Co, qui est l'association des Fab Labs d'entreprise, alors plutôt là des grandes entreprises en France, mais qui sont aussi mobilisées pour justement accompagner ces grosses structures à aussi agir en faveur de, en tout cas très rapidement aussi, en faveur de la résolution des problèmes qu'on a eu pendant la crise.
Et j'imagine qu'il y a peut-être quand même certaines limites à ce mouvement Makers.
Ce qui va freiner c'est déjà un frein culturel où forcément, comment on passe de consommateur passif à acteur, voire entrepreneur de ce monde à la fois numérique et puis de la société, forcément ça prend du temps en termes d'éducation, de formation. Et donc nous, c'est sur quoi on s'est basé pour notamment accompagner les écoles à se transformer à ce niveau-là. Et puis, je dirais, des freins aussi, peut-être en termes d'homologation qu'on a vu, en termes de certification, où à un moment, il y avait un flou juridique, et donc il y a eu une peur de makers de produire des équipements qui peut-être auraient pu se retourner contre eux, entre guillemets, en termes de responsabilité. Et donc, c'est vrai que, comme la société, ou en tout cas les systèmes juridiques ou autres n'étaient pas forcément prêts, ou il y a peut-être une méconnaissance aussi des makers par rapport à ces questions, forcément ça a freiné l'innovation, en tout cas le fait que certains se limitent, alors que si on connaît bien le domaine, on peut produire des visières et je dirais sans forcément craindre d'avoir un procès derrière. Mais il faut le faire dans la bonne logique et prendre conscience de toutes les questions que ça peut supposer quand on est fabricant aussi, même à échelle locale, d'équipement de médical, par exemple.
En tout cas, ça peut vraiment certainement inspirer beaucoup d'organisations, et même au-delà de l'organisation, hein, on en parlait un petit peu en préparant nos échanges. Tu m'as notamment parlé de la ville et de comment elle pouvait aussi se saisir. Finalement de l'état d'esprit makers.
Oui, c'est ce qu'on peut appeler la Maker City, hein, mais c'est comment on applique finalement ces principes du mouvement Makers à l'échelle là, d'un territoire et d'une ville. On parle de plus en plus des villes apprenantes, des villes résilientes. Donc il y a la question de la résilience productive, hein, comment on va relocaliser une partie de la production avec des micro-usines locales, par exemple, comment on va mettre en réseau des micro-producteurs, comment on va faire des plateformes de fabrication ouvertes qui va permettre justement cette fabrication, ces fab shops en magasin, comment on va aussi intégrer dans le mouvement Maker, il y a tout l'aspect recyclabilité, tout l'aspect économie circulaire qui est très importante, et donc comment aussi on va, je dirais, à échelle locale, créer des cycles courts et des cycles de matière non plus linéaires, mais bien circulaires. On va réutiliser les déchets en matière. Et donc, c'est aussi une société du faire ensemble, tout simplement. Donc, c'est ces raisonnements, hein, comment à l'échelle du territoire et de la ville, on relocalise et puis on met, par exemple, un Fab Lab par quartier, ou en tout cas, on accompagne cette transition. Là, il y a un enjeu politique derrière. Et puis, je dirais même de militantisme derrière du mouvement Maker, hein, comment chacun peut être acteur, comment chacun peut prendre part finalement à cette société, mais toujours ensemble. En tout cas, c'est le faire ensemble incarné, les Makers.
Donc effectivement, on est dans une période où il est bon d'imaginer comment on peut repenser finalement un petit peu le monde après la pause qu'on a connue. Et les Makers restent une bonne inspiration. Il y a sûrement beaucoup de bonnes idées à aller piocher dans leur mode d'organisation, dans leur transparence, leur coopération, et notamment dans l'open source. Donc, que ce soit pour l'entreprise ou bien au-delà, peut-être que tu as des petits conseils de lecture ou autres à nous donner avant de terminer, si on veut creuser un petit peu plus, si on veut s'intéresser à tout ça.
Après, il y a le livre Makers, la nouvelle révolution industrielle de Chris Anderson, hein, qui date un peu, mais qui a eu le mérite, en tout cas, de mettre en lumière et d'expliquer vraiment ce mouvement Makers. Donc ça, c'est un best-seller, je dirais. Après, on peut regarder L'éloge du carburateur, par exemple, qui est un autre livre là, d'un philosophe américain qui reconnecte au fer et qui nous explique qu'il y a une intelligence dans la main mais aussi dans le cerveau, et donc de pas séparer les deux, mais bien quand on fait des choses, c'est aussi de façon très intelligente. Et puis voilà, je dirais plus largement pour ouvrir, hein, c'est la deuxième crise là qui nous attend, hein, la crise climatique, et donc je pense que il faut prendre le temps de relire finalement l'expérience là des Makers pour justement résoudre, en tout cas apporter là des pistes de solutions pour ce monde d'après, en tout cas ce monde où bas carbone, ce monde où on va aussi avoir besoin, je pense, de refabriquer par nous-mêmes une partie de nos outils. Et donc voilà, ça c'est à la fois enthousiasmant et puis voilà, demain est déjà là, en tout cas.
Ouais.
Message.
Merci beaucoup Chris, merci aussi pour cette note d'optimisme pour la fin. Il y a plein de choses à faire, on a un grand champ des possibles devant nous et plein de bonnes pratiques à mettre en place, donc il n'y a plus qu'à.
Plus qu'à faire.
Encore merci et puis à très bientôt.
Merci.